Bonsoir, Tristan. Alors, je vais raconter mon rêve. Hein. C'est un rêve que j'ai fait il y a à peu près deux ans, mais ça m'a marqué, en fait. Alors, en fait, c'est un rêve qui pourrait ressembler à un rêve de film d'horreur. En fait, j'avais une vision d'une femme, qui était à moitié décharnée, vous savez, comme si on lui avait retiré la peau sur le corps, vous voyez?
Oui.
Donc elle était un peu écorchée et
Alors, excusez-moi, est-ce que même si c'est un rêve qu'il y a 2 ans, est-ce que vous pouvez le raconter au présent?
Alors voilà, donc en fait dans le rêve, je vois une espèce de vieille femme, mais vous dites complètement décharnée, comme si on lui avait brûlé la peau et qui indique de sa main droite, je crois, une direction vers la gauche. Et à ses côtés, il y avait un espèce de corps qui était coupé en deux, en fait, qui rampait sur le sol, je crois sans bras et sans jambes, quoi. C'est comme un tronc qui rampait sur le sol, quoi. Donc, c'était un peu une vision, je sais pas, une vision d'enfer, mais voilà, je me souviens de ça vaguement. Il y avait un flash comme ça et une personne qui, on va dire, un peu sans jambes, sans tête, quoi, qui rampe sur le sol et pareil comme un modèle écorché, quoi, en fait, qui irait sur le sol, voilà. Et cette femme qui avait une espèce de capuche sur la tête, mais on voyait qu'elle était complètement décharnée, quoi. Il y avait juste les os, vous savez, comme un modèle écorché en médecine, là, et qui m'indiquait une direction sur la gauche. Voilà, avec sa main qui ressemblait en fait à un squelette, quoi. Voilà ce dont je me souviens.
Et le personnage de Tron, c'est un homme?
Il me semblait que c'était un homme, mais c'était difficile à dire, mais oui, j'avais l'impression que c'était un homme. Alors c'est peut-être moi, une projection, je sais pas. Mais en tout cas, c'était assez flippant, quoi, comme rêve, ouais.
D'accord. Donc, ça pourrait être un couple.
Oui, alors je peux vous faire une aparté, mais qui n'a rien à voir avec le rêve.
Si vous voulez.
Voilà, alors en fait, parce que j'étais parti voir un marabout, vous savez, bon, il m'avait dit plus ou moins qu'il y avait une femme qui m'avait peut-être plus ou moins jeté un sort, voilà. Donc, alors moi, j'ai peut-être relié à ça, je ne sais pas. Enfin, moi, après, je fais un aparté, alors c'est peut-être pas de lien de cause à effet, mais bon, bref.
Alors, il peut y en avoir un, mais pas de façon directe. Là, si on regarde la direction qu'indique la femme, elle indique le côté gauche.
Tout à fait.
Donc, on peut l'entendre comme étant le côté féminin, regardez ce côté, mais surtout le côté gauche, c'est le passé, là, dans ce cas. Et donc, il s'agit de regarder en arrière, de regarder dans votre passé, puisque s'il y a des problématiques qui seraient liées au couple, il est possible que ce soit lié au couple de vos parents.
J'ai perdu mon pas aussi, il y a à peu près 10 ans, ouais.
Oui, donc quand vous étiez dans l'âge moyen, et ça peut être cet homme tronqué pourrait être le souvenir du père. Puisque donc dans votre moitié de vie d'enfant, puisque là en général l'enfant a besoin de son père au moins jusqu'à 20 ans, on va dire, enfin dans une forme idéalisée, il y a des temps, et donc vous avez perdu votre père trop tôt, et il est possible que cet homme
Non,
tronqué...
j'avais à peu près. Oh non, je l'ai perdu, j'avais 30 ans.
Ah bon, vous dites à 10 ans?
Non, j'ai perdu il y a 10 ans, pardon.
Ah d'accord. Non, mais alors, donc c'est l'enfance. Donc là, c'est déjà, il y a la conscience que votre père est pas entier. Donc il y a une vision du père, si c'est le père qui est représenté. Hein,
Oui, si c'est
une vision du
clair.
père qui est tronquée. Et donc c'est un homme tronc, il lui manque le bas du corps.
Oui, et comme s'il rampait comme un tronc, vous savez, qui rampe.
Et
Oui,
alors,
il n'y avait pas de jambes.
si c'était, parce que là c'est une hypothèse, si c'était votre père qui représentait, pourquoi le verriez-vous tronqué de cette manière?
Alors là.
Il n'était pas assez présent.
Bon, disons qu'il était de forte personnalité, hein. C'est quelqu'un de très, je dirais à la limite, je dirais pas castrateur, dans le sens, bah, moi j'étais le dernier, donc comme j'étais un peu grande gueule, tout ça, j'avais un caractère, bon, j'ai pu, alors, mais par rapport à d'autres, enfin, à ma sœur, où il y a eu, bon, ça a été un peu conflictuel, c'était compliqué, mais bon, ça c'est un autre sujet. D'ailleurs, j'ai oublié la question, c'était quoi votre question?
Quelle image aviez-vous de votre père? Est-ce que c'est vous qui avez été castré, tronqué? Parce que là, ça pourrait être aussi des images de vous-même que vous voyez.
Que je m'étais dit, moi aussi.
Mais
C'est trop dur.
si le père est castrateur, c'est que lui-même souffre d'un sentiment de castration, hein.
Oui, enfin après les névroses, c'est sûr qu'elles se transmettent.
Voilà, et donc comme c'est la partie basse qui manque, effectivement, il y a quelque chose de la castration qui est exprimé. Et donc la question que vous posez, c'est comment auriez-vous pu voir que votre père était tronqué, qu'il ne vous apportait pas tous les éléments qu'un père pourrait apporter à son fils? Et comment ne prenait-il pas sa place dans le couple et dans la vie de famille?
Ouais.
Et si la femme représente votre mère, là il y a une souffrance qui est vraiment exprimée. On voit sa peau donc qui par endroits est décharnée, qui est écorchée.
Il y a la mort, quoi. Il y a de la mort un peu, ouais.
Mais surtout de la souffrance. Puisque là, si c'est une peau écorchée, c'est une douleur extrême.
Oui, c'est sûr que c'est pas l'image d'important, c'est clair. Ouais.
Et donc, s'il y avait anathème, s'il y avait eu un sort qui a été jeté, il est possible que ce soit plutôt l'image que vous avez de la femme et de l'homme qui vous empêche vous-même de construire un couple solide. Donc, la métaphore de la femme qui vous aurait jeté un sort, ce serait plutôt l'image que vous en avez. Une femme qui serait soumise donc à une violence qui la fait souffrir régulièrement, face à un homme qui a un sentiment d'impuissance et qui donc est violent, castrateur avec sa femme ou ses enfants. Donc c'est peut-être le lien qu'a fait votre inconscient par rapport à l'énoncé qu'a fait le marabout. Mais je verrai plus les liens de l'enfance, puisque vraiment la main désigne le passé. Il faut regarder de ce côté-là. Et que la problématique relationnelle qu'il pourrait y avoir dans votre couple, ou dans le couple d'une façon générale dans votre vie, serait liée à l'image que vous avez de vos parents.
Oui. En gros, oui, enfin, je pense que c'est des mariages. Enfin, ça n'a pas été un mariage à la tradition, parce que ma mère a été présentée par un ami à mon père. Et ça n'a pas été comme dans certains cas où c'est des mariages, vous savez.
Mariage arrangé.
Comment?
Ça n'a pas été un mariage arrangé.
Oui, alors en même temps, enfin, ma mère était très rebelle hein, de ce point de vue-là, parce que quand elle voulait se marier, quand elle était très petite, elle a fait une dépression, une grosse dépression, elle ne voulait pas se marier avec le type. Bon, elle a fini par en réchapper, mais elle a été obligée quelque part, enfin consciemment même, de somatiser. Et elle a été alitée, elle m'avait raconté pendant pas mal de mois. Et on pensait qu'elle allait mourir. Hein. Et en fait, c'était à l'époque, la France était encore. L'Algérie était encore sous domination française. Et les médecins français avaient dit, donc ma grand-mère, donc la mère de ma mère, les médecins pouvaient rien faire. Et ils ont conseillé d'aller voir un marabout, quoi, des marabouts. Et finalement, les marabouts ont réussi à la guérir, quoi. Voilà. Donc voilà, enfin bon, eux, leur explication, après, c'est assez compliqué parce que les histoires de marabouts, est-ce qu'on est dans un champ irak? Parce que, alors vous, je ne sais pas, par rapport à ce que vous me dites, alors vous êtes peut-être d'influence psychanalytique, je ne sais pas, après, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Est-ce qu'on est dans un champ rationnel, donc tout ce qui est marabout, tout ça, vous pouvez dire que c'est une transposition métaphorique, on peut voir ça comme ça, hein? Ou on peut prendre ça au pied de la lettre, dire qu'il y a des esprits qui se manifestent, voilà.
Alors, quel que soit effectivement le choix que vous feriez de lecture, ce sont parfois les mêmes moteurs qui agissent.
Les
Donc,
mêmes?
les mêmes moteurs qui agissent. C'est-à-dire qu'on peut très bien le voir de façon ethnique ou ethno-psychiatrique, à la Tobie Nathan, par exemple. Mais par contre, s'il y a du magique, ça ne peut fonctionner que si la personne est crédule. Mais on peut très bien travailler sur des moteurs psychoactifs de façon magique. Ce qui est important, c'est la qualité humaine du marabout ou du psy que vous voyez, qui sera effectivement entré en contact avec la vraie personne et avec la vraie souffrance. Et donc, il est possible que votre mère ait vu un marabout et que elle ait entré en contact avec des personnes de qualité humaine importante et que par ce contact, elle a réussi à survivre, qui ont su toucher du doigt par des formes métaphoriques l'origine de son mal et lui permettre d'avancer. En tout cas, la souffrance, donc, elle est manifestée, vous la voyez très très bien par cette représentation de la femme. Donc, quels sont les déclencheurs de cette souffrance qui date donc d'avant le mariage? Mais ce que vous avez vu dans le mariage de vos parents, c'est donc quand même une souffrance. Et la juxtaposition de deux souffrances que vous ressentez pleinement dans le rêve et qui donc a pu poser un problème ensuite pour vous, pour votre relation à l'autre et pour créer un couple.
Tout à fait, parce que c'est vrai que moi,
je ne vous entends plus là.
J'ai 40 ans et c'est vrai que c'est toujours compliqué avec les femmes. Quoi. Alors peut-être, enfin moi j'ai peut-être aussi un côté un peu peut-être avec la colère aussi. Hein. Je pense que j'ai peut-être pas réglé ça. Bon, je fumais quand même pas mal, vous savez,
de kiff.
Voilà, alors c'est alors peut-être que c'est une façon de mettre à distance de l'angoisse, quoi. Une façon comme ça de un peu on va dire artificielle de mettre à distance sans pour autant régler les choses, quoi. On va dire c'est momentanément ça, mais bon, après je sais pas, il y a des ressorts inconscients. Mais c'est assez compliqué de savoir pourquoi les gens fument, quoi, quelque part aussi. Hein. Pourquoi ils boivent, pourquoi...
La plupart du temps, si vous prenez le cas de l'alcool, c'est le vide affectif. C'est une dépendance.
Moi, je ne buvais pas. Mon père avait eu un problème d'alcool.
Non, attendez, excusez-moi. Vous me parlez d'alcool et de tabac, ou de fumée.
Non, de fumette.
Et donc la fumette, c'est pour défaire un surmoi qui est trop coercitif. Et la plupart des gens qui fument, c'est pour enfumer leur surmoi, pour se sentir libre. Sinon, ils se créent trop d'obligations et de contraintes.
Ils ont un surmoi, on va dire, dictateur, quoi, dictatorial.
Voilà, c'est ça. Et donc, la fumette enfume le surmoi et amène un peu un apaisement qui va permettre au ça de s'exprimer un petit peu, de monter. Et donc, surtout, abaisser fortement les contraintes pour que le moi puisse se reposer. Et il est probable que, ayant été dans une structure qui était trop anarchique ou laxiste, vous vous soyez construit des règles beaucoup trop fortes et des devoirs beaucoup trop forts. Et donc le sens du devoir, du sacrifice, d'être au service des autres ou d'avoir été parentalisé, ça peut créer beaucoup trop de contraintes, d'où la dépendance à la fumette.
Ouais. Disons que je suis... Comment dire ? Vous avez dit un mot là qui m'a fait passer. Vous avez dit je suis trop. En gros, je serais trop exigeant vis-à-vis de moi-même. Quoi.
C'est ça, oui.
Je serais quelque part martyrisé par mon surmoi qui serait espèce de.
Mais probablement au service des autres.
Et que je me mettrais. Pardon, excusez-moi.
Probablement au service des autres.
Ouais, disons que si je peux rendre service, je le fais, c'est vrai, mais je suis souvent déçu par... Alors c'est peut-être ça, alors peut-être que j'investis trop émotionnellement.
Oui, parce qu'il y a un désir de reconnaissance, un désir de sauver, et plus vous en faites, moins on va vous apprécier.
Disons qu'on vit dans une société, ça je ne veux pas vous l'apprendre, hein, quand même assez individualiste, où les gens, chacun pense à sa petite gueule et regarde son petit nombril, et voilà, tu vois, bref, mais ça c'est un autre débat, mais oui, alors... Je sais pas si... Mais c'est vrai que j'ai tendance à réagir de façon assez virulente, ouais, quand je suis déçu. J'ai tendance à envoyer chier assez facilement quand on m'emmerde, quoi. Enfin, quand je trouve que les gens se foutent de moi, quoi.
Et donc, dans ce sens et dans ce cas, il faudrait d'abord penser à vous. Que vous soyez un peu plus individualiste et un peu plus égoïste.
Tout à fait. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai arrêté les drogues, parce que je sais qu'ici et maintenant, on fait la promotion de... Vous savez, enfin, moi, je ne suis pas pour la promotion des drogues.
Non, excusez-moi, ici maintenant, on ne fait pas la promotion des drogues.
La promotion... j'ai pas dit la promotion, mais... Pour moi, dépénaliser les drogues, c'est un faux problème. Voilà. Parce que déjà, si on est dans un système productiviste, si les gens... Ils bossent comme des dingues, si on les a. Donc, il faut des palliatifs pour pouvoir supporter l'insupportable.
Là, parce que là, c'est une autre problématique que vous évoquez.
Oui, après, ça, c'est un autre débat, mais bon, après, c'est un autre débat, c'est sûr.
Non, parce que là, vous parlez d'une politique qui serait une politique répressive ou une politique éducative. Parce que la répression n'a jamais guéri.
Non, c'est comment on fume, c'est surtout ça.
Voilà, mais voilà, c'est pourquoi on fume. Là, c'est plus intéressant de se pencher sur ce problème.
Alors, justement, pour en revenir à moi, C'est en fait, moi, je suis complètement en fait compulsif. Alors que je fume un pétard, je vais en fumer 10. J'ai dû... Alors moi, j'aimerais bien pouvoir, à la limite, avoir un morceau de shit chez moi et fumer un pétard de temps en temps. Mais ça, je peux pas. Il y a comme quelque chose de complètement addictif, compulsif.
Alors là, si effectivement, s'il y a une addiction à ce point, qui dit addiction dit dépendance affective. Il y a un vide affectif qui est très fort et que vous compensez donc par l'absorption. Ça pourrait être l'alcool, ça pourrait être le tabac, ça pourrait être la boulimie. Ou ça pourrait être la télévision ou l'ordinateur. Mais dès qu'il y a compulsion, c'est qu'il y a un vide intérieur qui correspond à un vide affectif. Et un manque donc d'estime de soi.
Je pense pas que j'ai un manque d'estime de soi. Je pense que je suis sûr de moi. Alors peut-être inconsciemment. Hein. Peut-être inconsciemment. Un désir de reconnaissance peut-être.
Ah, ben oui, parce que s'il y a un désir de reconnaissance, c'est qu'il y a quand même une recherche d'estime. Et il est possible que cette image de l'homme tronqué, ce soit l'image résiduelle que vous ayez de l'homme, celle qu'aurait donné le père.
C'est d'amputation, oui.
Voilà une amputation et donc un sentiment de castration que le père a transmis très fort. Et si vous aviez tout d'un coup la compréhension du phénomène que malgré vous, vous reproduisez des schémas parentaux, vous pouvez vous en éloigner et aller de plus en plus vers la puissance. Puisqu'après, vous irez vers la droite, donc du côté masculin, et du côté de votre devenir.
Donc là, quelque part, parce que bon, après, c'est vrai que c'est compliqué tout ça, Jérémy. Alors, alors, comment sortir de ce cercle vicieux, quoi, cette spirale de...
Le rêve vous l'indique, il faut regarder dans votre passé, résoudre les problématiques parentales qui ont quand même pollué votre enfance. Parce que là, les deux images sont très, très terribles.
Ah, elles sont terribles, les images. Je les ai encore dans la... Elles sont terribles. C'est choisi, c'est un film d'horreur, quoi. C'est Eraserhead, hein. C'est vraiment... oui, c'était assez flippant. Moi, quand je me suis levé le matin, j'étais pas bien, quoi. J'étais un peu... Vous savez, quand on est entre la veille et le sommeil, on est un peu entre deux...
Oui, donc on n'est pas encore capable de distinguer si c'est la réalité ou si c'est le...
Voilà, si c'est vrai qu'au réveil, c'est... Enfin, quand on est entre deux états, c'est un peu plus... frais au niveau de la mémoire, après ça a tendance peut-être à refouler, à s'estomper. Mais j'essaie des fois de noter les rêves. Ouais.
Mais en tout cas, donc effectivement, cette prégnance que vous avez au moment de l'émergence, c'est parce que vous êtes connecté avec une partie de vous-même qui est réellement dans cette souffrance.
Alors comment sortir justement?
Comme l'indique le rêve, en regardant dans votre passé et en allant le nettoyer.
Mais comment on fait pour le nettoyer, comment on va dans le passé, c'est ça?
Bah, là, vous avez deux choix. Donc, vous pouvez choisir la voie magique, aller voir un marabout. Mm-hmm. Mais là, il faut que vous tombiez sur une personne qui soit vraiment humaine. Soit vous allez voir un psy. Puisque là, par exemple, après, ce soir, vous consultez un psy.
Alors après, le psy, ça dépend. Est-ce que c'est un psychanalyste, un psychothérapeute
Alors, en tant que psychothérapeute, je vous recommanderais plutôt... un psychothérapeute, puisqu'il va induire un processus dans le travail qui, normalement, va l'activer, le faire aller moins vite. Mais il est évident qu'un psychothérapeute a besoin aussi d'être psychanalyste.
Hmm. Mais après, vous savez, moi, avec l'ésisme, j'ai du mal. Alors, c'est peut-être le rapport au père. Mais je pense que derrière toute idéologie, il y a le père, quoi, pour moi. Enfin,
pourquoi? Parce que c'était un fumiste?
Comment?
Pourquoi? Parce que c'était un fumiste.
Qui était un fumiste?
Vous dites que vous avez du mal avec l'éiste.
Oui, la psychanalyse, tout ça, je trouve que c'est un irrationalisme rationnel pour moi. Et quelque part...
Tant que vous n'avez pas essayé, que vous n'avez pas rencontré une personne, puisque le psychothérapeute ou le psychanalyste est une personne, c'est surtout l'échange entre les deux personnes et effectivement la compétence aussi de la personne qui va faire la différence.
Mais quand il disait ça, il disait que la psychanalyse c'est le roman bourgeois. Plus qu'il disait ça, c'est marrant comme forme. Après, je sais pas, parce que vous aussi, quelque part, bon, maintenant on va peut-être faire de l'épistémologie, vous aussi vous êtes peut-être dans une certaine croyance, quelque part, vous êtes tributaire aussi d'un conditionnement, d'une croyance par rapport. Bon, après, c'est pas une critique que je fais, hein, c'est une réflexion.
Alors là, Saïd, je peux. Ouais. Oui, effectivement.
C'est un autre débat, mais je vais pas vous
opposer. Non, pas du tout. Non, effectivement, j'ai des pères. J'aime le travail de Freud, j'aime le travail de Jung, mais je ne prends que ce qui me semble aujourd'hui actuel et actif. Et par contre, ce que je fais actuellement, l'interprétation du rêve, ce n'est pas du tout dans les critères, comment dire, reconnus de la psychanalyse, puisque j'interprète directement le rêve. Donc j'essaye d'induire une dynamique active qui est contemporaine, qui correspond à une période et à ce que je suis, plus que de suivre, je ne suis ni jungien ni freudien, mais je prends dans les deux, dans les pères fondateurs de la psychanalyse, je prends des éléments qui me semblent très très intéressants.
William Reich, non? Ça...
Bah, non, je me fie vraiment à ces deux piliers. Après,
Oui.
toutes les déclinaisons, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Mais chacun, par contre, a été lui-même, si vous prenez Reich par exemple, il a été lui-même plutôt que d'être jungien ou freudien.
Non, mais lui, il a été très freudien et quelque part, il dit que c'est Freud qui a sombré dans une espèce de thérapie. Enfin, il a sombré dans l'esprit petit bourgeois, quoi, quelque part, et qu'il a été un suppôt du système. Et que voilà, enfin, il est là pour garantir la stabilité du système quelque part. Et Freud serait quelque part, c'est de l'idéologie bourgeoise, hein, la psychanalyse, parce que c'est quand même
Si,
une
alors,
façon
si
de vivre contre le
effectivement,
social. Mais
si
bon.
on est freudien dans le sens pur du terme, oui, parce que ça n'a pas de sens.
Tout à fait. Mais après, bon, freudien, bon, enfin, il y a à boire et à manger, parce que Freud déjà, il a utilisé l'hypnose au début, qu'il a laissé tomber.
Oui, mais là,
Donc,
tout le monde fait des erreurs.
je sais
Donc,
pas si c'est une erreur.
bah, il a essayé des choses qui n'ont pas marché du tout. Là, vous parlez de la psychanalyse, mais il a essayé aussi des procédés avec de l'air, je sais pas, enfin, de l'électricité, enfin, des trucs invraisemblables, mais qu'il a laissé tomber. Mais parce qu'effectivement, c'est par l'expérience qu'on apprend.
Vous êtes psychothérapeute, hein, c'est ça?
Oui, formation psychanalyste avec une psychothérapie qui est l'interprétation
D'accord.
directe du rêve.
D'accord. Et vous, est-ce que vous consultez ça? Oui,
Ben
vous avez.
évidemment, oui, c'est mon métier, oui. Oui.
D'accord, mais alors, parce qu'on pourra avoir vos coordonnées après l'émission, je sais pas quand
Bah
vous les
vous
donnez là.
cherchez dans l'annuaire ou sur Internet.
Alors, c'est monsieur, votre nom, c'est?
Tristan Moir.
Noir comme la couleur.
M avec un M.
Amoiré, comme le moiré, le reflet, c'est ça?
Oui.
Moire, c'est ça?
Non, sans E, je suis un garçon.
Mémoire, c'est un nom de famille, alors.
Oui, voilà.
Bon, d'accord, il y a un souci par rapport à la masculinité. Non, mais j'ai pas dit que vous étiez.
Non,
Bon, bref, c'est
je
pas grave.
plaisantais.
D'accord, bon, alors, faites du troisième degré. Ben, je vous remercie en tout cas, monsieur Moire.
Tristan.
Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.